Les parts actualités.
Mai 2018, bienvenue à l'émission Les Parts Actualités. Hélène Denis au micro et en manchette aujourd'hui, un don exceptionnel pour les itinérantes à Montréal. Aussi, une famille évincée en raison d'un enfant handicapé à Québec. Pour m'occuper de ma fille autiste, je suis devenue écrivain. Et en entrevue, je reçois Steve Joseph, directeur service des loisirs à la Fondation des aveugles de Québec, ainsi que Alexandre Saint-Arnaud, adjoint à la programmation à la Fondation des aveugles de Québec, pour nous parler des activités sportives et récréatives proposées aux jeunes ayant une déficience visuelle par la Fondation des aveugles du Québec, de Québec. Et aussi Isabelle Mollier, coordonnatrice de l'organisme Pardi, parents pour la déficience intellectuelle, qui nous parle, entre autres, de « Le grand naufrage », performance théâtrale, présentée le 9 mai. Nouvelle issue du site de Radio-Canada, Québec pressé de revoir son programme d'hébergement en CHSLD. Vivre en centre d'hébergement de soins de longue durée coûte de plus en plus cher, jusqu'à 1 860 $ par mois dans le réseau public québécois pour une chambre individuelle. Or, les résidents sont moins nombreux à obtenir l'aide de l'État quand vient le temps de payer. Ça ne marche pas. On arrive dans un mur, tonne la présidente de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, Judith Gagnon. Depuis des années, elle réclame une mise à jour complète du programme d'exonération pour l'hébergement en CHSLD, encore encadré par certaines dispositions du règlement sur l'aide sociale qui date de 1983. En 2016, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, promettait d'agir, mais les changements se font toujours attendre. Les gens qui n'arrivent pas à rentrer dans ce programme-là, c'est incroyable. Pouvez-vous imaginer leur détresse? Selon des chiffres obtenus par Radio-Canada, le nombre d'usagers en CHSLD profitant du soutien de l'État est passé de 16 000 en 2008 à moins de 12 000 au début de 2018, une baisse de près de 30 %. Le président du Conseil pour la protection des malades, Paul Brunet, ne croit pas que la baisse du nombre de subventions soit liée à l'amélioration de la situation financière des aînés. Un don exceptionnel pour les itinérantes à Montréal, c'est sur le site de Radio-Canada aussi. Un don inespéré $1 million va permettre au refuge pour femmes chez Doris à Montréal de réaliser un projet d'envergure qui profitera aussi à la clientèle autochtone. 20% des femmes qui fréquentent le refuge de jour chez Doris sont autochtones, dont plusieurs Inuits qui errent la nuit et viennent s'y reposer le jour. L'important don d'un homme d'affaires montréalais à la retraite, Andrew Harper, devrait permettre d'améliorer la situation précaire de bon nombre de ces femmes. Après une presque fermeture en 2014 et des travaux majeurs en 2017, ce don exceptionnel et inattendu permettra à chez Doris de réaliser sa mission à plus grande échelle, a précisé la directrice générale du refuge, Marina Boulos-Winton. Madame Boulos-Winton compte se servir de cette somme comme levier pour ouvrir une autre ressource. Un centre de jour plus grand serait l'idéal, précise-t-elle. En 2017-2018, 551 femmes ont fréquenté chez Doris pour la première fois, une augmentation de 58,79% par rapport à l'année précédente. Or, la fermeture annoncée d'Open Door, un centre de jour offrant des services aux sans-abri, en juin, de plus en plus de femmes vivent dans la précarité, qu'elles soient francophones, anglophones, issues des communautés culturelles ou autochtones. Pour ces dernières, un projet pilote en collaboration avec la Ville de Montréal devrait leur permettre pendant 6 mois de profiter des services d'un refuge de nuit. deux invités en studio, Steve Joseph, directeur service des loisirs à la Fondation des aveugles du Québec, et Alexandre Saint-Arnaud, adjoint à la programmation de la Fondation des aveugles du Québec. Bonjour, messieurs.
Bonjour, bonjour.
De belles voix radiophoniques. Alors, vous êtes en studio avec nous pour nous parler des activités sportives et récréatives proposées aux jeunes ayant une déficience visuelle par la Fondation des aveugles du Québec. Comment se présente votre programme de l'été? J'ai regardé un peu le calendrier, ça a l'air pas mal chargé.
C'est très chargé, notre programme d'été. Alex, ça te dérange pas que j'y aille?
Ah, vas-y.
Super. Donc oui, c'est très chargé, évidemment. C'est pas un programme de loisirs, par exemple, comme la Ville de Montréal peut offrir un programme de loisirs. C'est très adapté. Et puis, pour l'instant, je vous dirais qu'on est en train de battre des records d'inscription.
Ah malgré... Oui,
nos inscriptions, justement, c'est jusqu'au 31 mai prochain. Puis, on est en train de battre des records. Et puis, même que nos enfants, nos ados et tout ça, ben, y en a qui disent, ben, mettez-moi sur la liste d'attente présentement. Puis, ça nous fend le cœur un peu, mais évidemment, il faut y aller avec la réalité.
Oui, parce qu'il y a une limite.
Exactement. Ouais. Oui.
Qui peut participer à ces activités-là?
C'est des jeunes de 6 à 18 ans environ, puis c'est tous des jeunes qui ont un handicap visuel. Donc, on permet aux frères et sœurs des jeunes qui ont un handicap visuel de venir avec nous, de s'intégrer. Donc, on essaie de faire beaucoup d'intégration avec d'autres quartiers de Montréal pour promouvoir aussi la fondation, pour sensibiliser la fondation, sensibiliser la cause, en fait.
Mm-hmm. Et quelles sont les activités sportives proposées aux jeunes?
Wow, on en a plusieurs.
Quelques-unes.
Mais ouais. Justement, cette année, qu'est-ce qui est nouveau, c'est qu'on a fait des mardis sportifs. Donc, tous les mardis, ça va être un mardi différent, ça va être des sports qu'on va pouvoir faire. Et comme Alex disait précédemment, ça va être des loisirs qu'on va pouvoir faire avec des jeunes, mettons, d'ailleurs, d'autres camps de jour de la Ville de Montréal pour sensibiliser la cause et sensibiliser nos jeunes, justement, à d'autres personnes pour pas que juste ségréguer, mettons, notre groupe des aveugles. Donc, on va pouvoir ouvrir nos horizons un peu partout.
Est-ce que c'est une première, ça?
Ça, c'est une première, oui, exactement. Donc, on a voile en voile, on a aussi, on a escalade, on a le TAS, on a vélo tandem, on a du rafting qu'on va faire sur le Saint-Laurent. On a plein d'activités qui vont s'en venir, puis beaucoup de diversité là-dedans.
Et est-ce que toutes les activités sont des activités sportives ou on peut aussi sortir de ce cadre-là? Est-ce que des activités culturelles?
Oui, on sort, on offre beaucoup, notre tangente est plus vers le volet sportif, oui. Mais on a aussi des activités culturelles, artistiques. Donc, il y a plusieurs activités journées où, exemple, les vendredis, c'est des vendredis où les moniteurs de la Fondation vont créer des jeux, des activités, une thématique pour les jeunes. Donc, c'est pas que sur le volet sportif, mais oui, il y a les volets. On va aller au festival de jazz, par exemple. Mmh. On parlait tantôt de sport aussi. On va faire du vélo tandem, je sais pas si tu l'as dit. Mais on va aussi faire un cours de sciences. Donc, sciences, comment faire tel produit avec ce qu'on a...
Des projets scientifiques.
On a exactement. La ronde aussi, on a les glissades d'eau, on
saute
a...
Saute-mouton.
Saute-mouton aussi, et science en folie. Ça, c'est bien. Ça. Ouais. En plus, ils nous fournissent ce dîner.
Ah oui, mais ça, c'est encore mieux. Mais toutes ces activités-là ne sont pas gratuites. Là, on s'inscrit, puis il faut payer un certain montant.
Exactement. Le forfait pour les enfants, c'est un forfait sur semaine. Et les ados peuvent le prendre sur semaine ou à l'unité. Évidemment, c'est plus... disons que c'est plus avantageux de le prendre à la semaine. Mm-hmm. Mais ça ressemble beaucoup, mettons, au même prix, mettons, que la Ville de Montréal peuvent offrir. Là. Ouais. Je vous dirais que c'est à 10
dans une fourchette de...
Une centaine de dollars par semaine. Mm. Sauf pour nos camps de vacances. Les camps de vacances, ça, c'est une autre chose parce que là, on part là-bas.
Mm.
On
oui, c'est où exactement?
On en a trois. On en a trois camps de vacances. Ouais. Il y en a un que je ne dirais pas, le dernier, parce que de toute façon, on va revenir avec ça. Mais
je peux le dire pour revenir quand même.
On va le dire. C'est une surprise. Mais non. Donc, le premier, on va l'escapade en Mauricie. OK, c'est au camp Val Notre-Dame, dans le fond, à 6 km, à Hérouville. On a entendu parler d'Hérouville différemment ces dernières années, mais là, ça va être... Ça va être un beau sujet.
Ça peut faire tomber des préjugés.
Exactement.
Hein?
Ben, ouais, ouais. Moi, j'ai travaillé là-bas 10 ans, c'était quand même en plus de ça. Oh, oui, avec des handicapés intellectuels précédemment. Mais là, on va aller là-bas, on va faire un tour dans la Mauricie. On va visiter, étant là-bas, Trois-Rivières, Saint-Élie-de-Caxton. On va visiter toute la Mauricie. On va faire des activités aussi sur le camp, sur la base de plein air. On a aussi le camp Edfi.
Le camp Edfi.
Bien connu, hein?
Oui, bien
un
connu.
Classique.
Oui, un classique.
Ouais, et puis, on a profité parce que c'est une enseignante qui travaille avec moi à la commission scolaire qui est rendue propriétaire du camp. Alors, on en a profité cette année pour faire des arrangements ensemble. Et puis, le dernier, je vais te le laisser dire. Ben oui. Tiens.
C'est une escapade à Toronto pendant une semaine.
Oui,
oui.
Malheureusement.
Vous ne pourriez pas y aller.
C'est complet.
C'est complet. Vous ne pouvez pas en ajouter.
Ben là, je suis en train. On y avait un 56 places et là, je suis en train de savoir si on est capable d'avoir un 60.
En autobus?
Oui, en autobus. Ouais. On part en autobus. Et je sais qu'on va revenir à ça, mais c'est une activité familiale. Donc, à tous nos calendriers, on essaie de mettre une activité familiale.
Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y en a plusieurs activités que les enfants, les adolescents peuvent faire en famille?
En fait, on essaie d'en mettre une par saison. Donc, à l'automne, on est allé aux pommes. Mm-hmm. Cet hiver, on est allé...
À l'automne, on est allé aux pommes et à New York.
À New York, c'est
oui,
vrai.
On a fait la grosse pomme.
Non, la grosse pomme. C'est ça, exactement.
Et voilà. Puis, on a cabane à sucre aussi qu'on essaie de faire. On essaie de... Là, cet été, ça va être ça va être justement à Toronto.
Hey, vous avez vraiment des beaux projets. Mmh. J'ai presque le goût de m'inscrire.
Ben, on vous attend. On aime ça, les bénévoles.
Oui. Est-ce que vous en avez besoin encore?
Oui, toujours.
Il y en a combien de bénévoles?
Je vous dirais 4-5. Par semaine, je vous dirais 4-5 qui peuvent venir nous aider, mais je vous dirais qu'on a quand même un bon ratio de bénévoles, mais on en prend toujours parce que c'est quand même difficile d'avoir des bénévoles partout, juste à la Fondation des aveugles, mais un peu partout, c'est difficile. Donc oui, on fait appel.
En terminant, messieurs Steve Joseph et Alexandre Saint-Arnaud, si on veut avoir de l'aide financière, est-ce que c'est possible?
Oui.
Steve.
OK, super. Vas-y, Alex.
C'est tout, merci.
c'est possible. On a juste à faire une demande à son CLSC. Et puis, par la suite, de faire des arrangements avec nous autres, on est bien ouverts, puis on peut diriger les gens s'ils ont besoin de faire avoir une aide financière particulière.
Puis généralement, les personnes responsables nous contactent pour valider. Donc, si ce jeune-là est bien inscrit, nous on valide. Et puis après, c'est une question de temps, on en reçoit.
Alors, bel été en perspective. Ça commence quand, les activités?
Ça commence le 25 juin, donc la première semaine de juin. On a 8 semaines d'activités qui se terminent le 18 août.
Parfait. Et vous dites qu'il y a des listes d'attente pour toutes les activités?
Surtout les camps
de vacances, là, il y a des listes d'attente.
Si on veut avoir plus d'informations, vous avez un site Internet, un numéro de téléphone?
Oui, exactement. 514-259-9470, poste 22 ou 29.
Pouvez-vous vous rappeler le numéro, s'il vous plaît?
Le 514-259-9470 au poste 22 ou 29, sinon fondationdesaveugles.org.
Alors, merci beaucoup. On vous souhaite un magnifique été, vraiment. Là, si vous avez une programmation très alléchante. Mm-hmm. Steve Joseph, directeur service des loisirs à la Fondation des aveugles du Québec, et Alexandre Saint-Arnaud, adjoint à la programmation à la Fondation des aveugles du Québec. Un grand merci de votre visite.
Merci beaucoup
de nous avoir reçus.
Puis au plaisir de vous retrouver.
Il n'y a pas de problème.
Toujours.
Une famille évincée en raison d'un enfant handicapé à Québec. Une mère de famille du quartier Limoilou à Québec sera évincée de son logement d'ici 2 semaines parce que sa fille lourdement handicapée dérangerait sa voisine. dérangeait sa voisine, dis-je bien. La mère de trois enfants a raconté à TVA Nouvelle avoir cherché à s'entendre à l'amiable avec les propriétaires de l'immeuble et sa voisine sans succès. J'ai eu un appel du bureau de la propriétaire 4 jours après qu'on ait aménagé pour me dire qu'il y avait déjà des plaintes. À partir de ce moment-là, c'était récurrent. C'était toutes les semaines, 2 semaines par mois. On a reçu des mises en demeure. Au début, c'était toujours Laura qui était identifiée comme étant la source du problème, a raconté la mère. Par la suite, Laura, qui est âgée dans la vingtaine, a été placée dans une résidence à temps partiel, mais les plaintes se sont tout de même multipliées. TVA Nouvelle a tenté de parler avec la voisine pour obtenir sa version des faits sans succès. La régie du logement traite régulièrement des causes de résiliation de bail en lien avec le comportement des occupants d'un logement. Selon le tribunal administratif, un locataire a l'obligation de ne pas troubler la jouissance paisible des autres locataires, mais toute personne se doit aussi d'accepter les inconvénients normaux qui n'excèdent pas les limites de la tolérance. La voisine de la mère s'est tournée vers la régie du logement pour se plaindre du bruit. Le tribunal a finalement tranché en faveur de la plaignante, résiliant le bail de la mère de famille et ordonnant son éviction à la fin du mois de mai. Et je joins maintenant Mme Isabelle Moulier, coordonnatrice de l'organisme PARDI. PARDI pour Parents pour la déficience intellectuelle. PARDI qui est un organisme qui existe depuis 1996 et qui a pour mission de défendre et de promouvoir les intérêts des personnes en participant à toute initiative visant leur protection et l'amélioration de leur qualité de vie, les personnes donc qui vivent avec une déficience intellectuelle. Bonjour Mme Moulier.
Bonjour.
Alors, merci d'être avec nous pour nous parler d'une performance théâtrale intitulée « Le grand naufrage ». Ça fait peur, ça, « Le grand naufrage ». Qu'est-ce que c'est?
Le grand naufrage, en fait, c'est une action qui a lieu dans, à l'intérieur du cadre de la campagne « Nous sommes et nous voulons » du mouvement Phase. C'est une action qui va être mise en place par les parents et leurs enfants, donc ils sont des usagers du Santé, du système de santé et services sociaux, qu'on voulait ludique et un peu léger en regard de tous les événements qui viennent de se passer avec Walmart et tout ce qu'on attend en ce moment qui concerne le résidentiel. Donc on voulait faire une action de mobilisation, une action dénonciatrice, une action qui parle de nos revendications sous un thème sympathique qui est le grand naufrage. Donc il va y avoir une performance théâtrale avec des usagers qui vont être revêtus de vestes de flottaison et des parents qui essaient symboliquement de sauver leurs enfants d'un naufrage certain. Donc c'est quelque chose qu'on voulait sympathique et ludique.
Alors ça se passe le 9 mai?
Oui, demain.
Et comment cette activité va se dérouler?
Alors, cette activité va se dérouler en 2 temps. Elle se déroule donc de midi à 12h45. Donc, il va y avoir la performance théâtrale de midi à grosso modo 12h20. Après, il va y avoir des parents et des usagers qui vont prendre la parole et puis qui vont parler de leur propre voix, de leurs revendications, ce qui est important pour nous. Mmh. Après, il va y avoir des entretiens avec individuels, avec les usagers et leurs familles. Et on terminera avec la coordination du mouvement Phase qui déclamera des slogans et qui parlera de la campagne. Donc, c'est une action qui est éclair parce qu'elle dure que 45 minutes et qui va avoir lieu au coin des rues Sainte-Catherine et Balmoral, vraiment en bas des escaliers du Musée d'art contemporain à la place des festivals.
Ah oui, en plein cœur du quartier des spectacles.
Oui, parce qu'on veut accrocher le maximum de citoyens possible pour pouvoir faire rayonner aussi cette action le plus largement possible.
Et en plus, le soleil va rayonner. Vous allez avoir vraiment la météo de votre côté.
C'est tout ce qu'on se souhaite.
Tant mieux. Non, on annonce vraiment du très, très beau temps demain. Et quelles sont les revendications de PARDI plus explicitement?
Ben, en fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est parler notamment des listes d'attente en réadaptation, tout ce qui concerne l'ergothérapie, la stimulation précoce, l'orthophonie. On veut parler aussi, vous n'êtes pas sans savoir, qu'aujourd'hui, pour faire des placements qui ne sont pas des placements résidentiels dans l'urgence, on parle d'une liste d'attente entre 8 et 13 ans maintenant.
Oh.
Donc, on parle de tout ça et ce sont des revendications qui sont chères à nos membres et chères à Pardi. Nous, on les défend à travers des tables de concertation à l'année longue. Donc là, on donne la voix aux parents et aux usagers. On va parler aussi de la fin des compressions et un réinvestissement majeur dans les services publics. Donc, et puis tout ce qui est gratuité, des évaluations, du soutien à domicile, on va aborder plusieurs sujets en fait.
Est-ce que vous savez s'il y aura des caméras télé? Est-ce que vous allez être filmé? Est-ce que ça va être capté et ensuite diffusé?
On se souhaite ça parce que c'est toujours ce qu'on cherche à faire, d'avoir oui. un maximum de visibilité. Donc hier, on a envoyé un communiqué de presse sur les fils de presse. Donc on les a envoyés aussi aux journalistes qui sont plus ou moins sensibilisés avec le sujet en santé et services sociaux et qui soutiennent le mouvement communautaire. Donc on espère avoir des médias qui puissent faire rayonner plus largement à Montréal, mais pourquoi pas au Québec au complet, mm-hmm. cette action, parce que finalement ce ne sont pas des revendications de parents uniquement montréalais. Ce sont des revendications des parents québécois au travers de l'ensemble du Québec.
Oui, et la campagne « Nous sommes et nous voulons », l'accès aux services, une question d'autonomie, bat son plein au mois de mai. Est-ce que vous pouvez nous mentionner oui. les autres rendez-vous du communautaire?
Bien sûr. Donc, là, nous, notre action, c'est le 9 mai. Après, s'en suivra l'action de revendication du centre communautaire Radisson, le 14 mai. Il va y avoir un grand vox pop sur l'accès aux services qui va avoir lieu pendant les États généraux de la déficience intellectuelle qui se déroule la semaine prochaine à l'UQTR de Trois-Rivières. Le 16 mai, et puis il y a l'action de clôture de la campagne du mouvement FAF qui va se dérouler en plein cœur de la Semaine québécoise des personnes handicapées début juin.
Ouais, alors vous
Donc
manquez
là, on pas... touche au bout de la campagne.
Oui. Vous manquez pas de pain sur la planche.
Non, absolument
Alors,
pas.
Je vous souhaite que le grand naufrage porte ses fruits. Ça se déroule, rappelez-nous l'heure, s'il vous plaît, et le lieu de la performance.
C'est de midi à midi 45 au coin Sainte-Catherine et Balmoral, en bas des escaliers du Musée d'art contemporain de Montréal. Et vous allez voir, on va être facilement repérable. Donc, on va avoir du plaisir d'être ensemble dans la revendication, donc demain, le 9 mai.
Alors, bon grand naufrage, c'est drôle à dire,
Merci.
Mais c'est comme ça. Puis au oui. plaisir de vous reparler, Madame Mollier. Merci.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir. C'était Isabelle Mollier, coordonnatrice de l'organisme Pardi. Pardi pour parents pour la déficience intellectuelle. Dans le journal Express.ca, une campagne de dons par texto pour la Société canadienne de la sclérose en plaques. La Société canadienne de la sclérose en plaques, section Centre du Québec, n'aura jamais été aussi simple. Jusqu'au 27 août, les gens peuvent contribuer à la cause à partir de leur téléphone portable. De façon précise, la population est invitée à texter SPCQ au 41010 pour faire un don de 5 $. Tous les fonds amassés contribueront au financement des services offerts aux personnes touchées par cette maladie dans la région de Centre du Québec. En plus des dons par messagerie texte, les gens sont invités à prendre part à la campagne de l'œillet du 10 au 12 mai, qui se clôturera par un événement rassembleur, soit la Marche de l'espoir au Centre communautaire Saint-Jean-Baptiste à Drummondville, sous la présidence d'honneur du député de Drummond, François Choquette et Karine Tremblay, pharmacienne propriétaire de la pharmacie Brunet, du secteur Saint-Nicéphore. Rappelons que la sclérose en plaques est considérée comme une maladie auto-immune qui s'attaque au système nerveux central, cerveau, moelle épinière et nerfs optiques. Dans closermag.fr, pour m'occuper de ma fille autiste, je suis devenue écrivain. Sophie Jaumin, ancienne archéologue, écrit désormais des romans. Elle se partage entre ses succès en librairie et sa vie de mère, confidence d'une battante. Sophie Jaumin n'aime pas les étiquettes. Auteur d'une des premières sagas young adult françaises, de comédie romantique, d'un polar écrit à quatre mains ou d'un roman sur l'euthanasie, elle a toujours quelque chose à dire. Pour son plus grand bonheur, avec 400 000 exemplaires vendus de ses différents ouvrages, le public est au rendez-vous. Ce jour-là, au Salon du livre de Paris, Sophie Jaumin Tout Sourire enchaîne les dédicaces pour sa comédie romantique « Fais-moi taire si tu peux », sa première collaboration avec les éditions Harlequin. Elle accueille avec bonheur ses lectrices pleines d'enthousiasme. Lorsque Sophie ne planche pas sur son prochain roman dans son refuge en baie de Somme, elle veille sur Lou, sa fille de 10 ans, à la santé délicate. Lou est autiste, malentendante et diabétique. Sophie, archéologue de formation, mesure chaque jour la chance qu'elle a d'être devenue romancière. Archéologue, c'est passer des semaines sur des sites de fouilles, loin de chez soi. Je ne voulais pas élever mon enfant en pointillé. Écrivain, c'est révéler le métier idéal. En plus du confort de travailler à domicile, je suis disponible pour Lou. Si Sophie a déjà abordé le thème de l'euthanasie dans un roman, elle n'a jamais écrit sur l'autisme, trop proche de moi, reconnaît-elle. Voilà, c'est tout pour les paractualités de ce mardi 8 mai 2018. Merci à mes invités, Steve, Joseph et Alexandre Saint-Arnaud de la Fondation des aveugles du Québec et Isabelle Molliet, coordonnatrice de l'organisme Pardi qui nous parlait de la performance théâtrale qui a lieu demain, le 9 mai, le Grand Naufrage dans le centre-ville de Montréal, à la place des spectacles. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson à la recherche et Jean-Sébastien Laliberté à la technique, ici Hélène Denis, qui vous dit un grand merci d'avoir été à l'écoute et j'espère vous retrouver dès demain. Bonne journée.